France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse week-end. Et ce matin, quelques idées pour partir en week-end ou pendant ces vacances d'hiver, en compagnie de la journaliste Sandrine Mercier, du rédacteur en chef de Théma.archi David Habitant, et avec l'autrice et magistrate Adeline Baldacchino. Et vous, n'hésitez pas à mettre en valeur votre région, nous donnant envie d'y aller au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bonjour Grégory Cohen.
Oh bonjour Ali Rédé.
Chef du OnePlace à Rungis dans le Val-de-Marne. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps de partager une recette de gaufres et ça sera réparé grâce à vous.
Et oui, oui, en plus comme on est une radio avec beaucoup de transfuses belges, je vais faire même une recette de gaufres liégeoises.
Bonjour Théodore Dillerin.
Bonjour Ali.
Libraire au comptoir des mots dans le 20e arrondissement de Paris. Quel est votre plaisir littéraire tout à l'heure?
Bah écoutez Ali, on parle de week-end, donc moi je vous emmène à Naples. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, on va parler d'amour. Voilà, j'ai décidé de mêler ces deux thèmes ensemble.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Professeur de philosophie dans la vraie vie, quel est le menu de votre chronique philo devant votre fils Anatole que nous avions en stage cette semaine? Vous avez la pression là.
Hein, c'est ça, voilà. Donc une question aussi, puisque c'est donc la Saint-Valentin, cher Théodore, que reste-t-il donc à apprendre de l'amour? Est-ce qu'on ne sait pas tout déjà?
Oh, j'ai hâte de le savoir.
Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma à Télérama, qui deviendra notre ami cette semaine?
Et bien quelqu'un qui, d'une certaine manière, nous apprend aussi ce que c'est que l'amour. Et franchement, eh ben on a besoin, non? Oh là là, on ouais, a besoin en ce moment.
Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Maîtresse de conférence en linguistique à la Sorbonne, au menu de votre chronique avec la langue.
Eh bien, pour fêter la sortie du dernier Bridget Jones qui s'appelle Folle de lui, que je n'ai pas vu.
C'est bien.
Eh ben on va réfléchir à ce type de métaphore. Pourquoi on dit folle de lui, folle d'elle? Voilà, donc un petit sujet sur les métaphores de l'amour aujourd'hui, du début à la fin, malheureusement, de l'histoire.
Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
S'il vous plaît, monsieur, le train pour Saint-Maurice, c'est où? C'est pas affiché, là.
Ça m'étonne pas si on est à Saint-Lazare.
Ah, écoutez, je suis pas fou sur mon billet, tenez. Il y a écrit Saint-Lazare. C'est mes yeux ou quoi?
Je crois que ça doit être vos yeux.
Ah ouais, c'est mes yeux, ouais.
Il n'y a pas que le ski dans la vie pendant les vacances d'hiver, il y a bien d'autres destinations. Bonjour Adeline Baldacchino.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, poétesse, essayiste, magistrate à la Cour des comptes, grande voyageuse et vous avez notamment publié Micro-jubilation, chronique de la joie voyageuse aux éditions Rhubarbe et le dernier livre paru chez Flammarion avec Haïm Corsia, Fragments de mémoire, voyage à Auschwitz-Birkenau. Et c'est donc chez Flammarion. Bonjour Sandrine Mercier.
Bonjour Ali, bonjour.
Rédactrice en chef de la revue AR, consacrée au voyage, à la une de AR, qui ne veut pas dire Ali Rébéi, hélas, comme je le dis à chaque
non,
fois.
Non, aller-retour.
Aller-retour. On sait pourquoi aller vite.
C'est le Canada et l'Alberta où il y a de la neige, non pas artificielle, jusqu'au mois de mai sans problème.
Ah, je vais vous le piquer là, parce que ça se passe en Alberta. Bonjour David Habitant.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef de Théma.archi sur les réseaux sociaux, ça marche fort. Théma.archi, c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas?
Écoutez, on parle de la ville, on parle du patrimoine, on parle d'architecture. On avait par exemple cette semaine une vidéo sur le brutalisme. Ah. Il y a le film The Brutalist qui est sorti, alors on a expliqué c'est quoi ce courant architectural.
Théma.archi. Alors avant de commencer, quelles sont autour de la table vos envies de voyage en ce moment sur une échelle de 1 à 10 dans cette ambiance dystopique, incertaine, grise, anxiogène? Quelles sont vos envies profondes si vous aviez une baguette magique kilomètre trage illimité, Guillemette Odissino?
La possibilité du Nil. Alors, moi j'ai juste regardé internet et j'ai regardé c'est quoi les plus belles îles. Alors je vais pas très très loin, mais il y a Ischia qui est censément la plus belle ville d'Italie, donc je veux y aller maintenant tout de suite. Et comme j'aime aussi beaucoup les Landes, etc., j'ai vu que l'île d'Islay était, je cite, la quintessence de la vie insulaire écossaise. Donc voilà, moi je veux ça. Moi, je veux ou l'Écosse ou l'Italie, et seul avec des rochers, regarder la mer, quelle que soit la saison, je m'en fous. et que ce soit beau et qu'il y ait le moins de monde possible. Et...
Alors peut-être que Hagrid, alias Thibault, dira... Hagrid en beau gosse, hein, je le dis Hagrid.
Théodore
Dillerin, vos envies en ce moment de voyage ?
Eh ben moi, plutôt Italie qu'Écosse, hein, Guillemette. Hein. Je préfère le soleil à la pluie. Je sais pas d'endroit en particulier.
C'est quoi le rêve, là ?
Allez, un petit village en Toscane avec une place, une église pour aller regarder des vitraux et se poser, faire des mots croisés, boire des cafés, bouquiner. Voilà. Bref, la vie, quoi.
La Dolce Vita.
On ne veut pas aller si loin que ça, en fait.
Grégory Cohen.
Ouais, alors, bon, moi, là, c'est la pire Saint-Valentin de l'année, là, pour moi, hein, parce que c'est le moment où je me sépare de ma femme. Donc, autant vous dire que toute ma chronique, déjà, ça m'angoisse. Mais à un point, je me dis que j'aurais dû faire. J'aurais dû me porter pâle ce jour-là. Donc, du coup, allez, hop, Cassos. Mais Cassos, très loin, entre le Pacifique et les Caraïbes.
Ah ouais.
Ça s'appelle tout simplement le Costa Rica, et là-bas, c'est la Pura Vida. Et. Ouais, ça serait bien.
Thibaut de Saint-Maurice.
Alors, moi, j'ai appris qu'on pouvait aller en Scandinavie avec le train. Et j'avoue que je trouve que c'est assez tentant. J'imagine qu'il y a plusieurs trains et que c'est un peu long. Mais que, voilà, du coup, ça m'a toujours fait rêver, ces coins-là. Aussi bien, d'ailleurs, l'image que j'ai de ces villes qui sont colorées, chaleureuses, alors qu'il y fait très froid. Et puis après, les grandes forêts et puis les petits bouts d'îles sur... voilà, avec des comment ça s'appelle, des saunas, du bois, bref, voilà.
En tout cas, moi, je suis comme vous, Théodore, j'ai une très grande envie d'Italie.
On part tous ensemble,
en ce moment. Sandrine Mercier, est-ce que les Français partent beaucoup en vacances pendant ces vacances d'hiver ?
Alors, j'ai fouillé parce que je savais que vous alliez me poser la question. Eh bien, en fait, pas trop, hein. C'est pour ça qu'il y a seulement 20% des Français qui partent en hiver, là, entre décembre et mars. Donc, c'est beaucoup, beaucoup moins que l'été. Et ces vacances d'hiver pour prendre le train pour Bourg-Saint-Maurice, comme ils le faisaient dans les bronzés, eh bien, c'est que 10% des Français qui partent à la neige.
Il n'y a que 10% des Français qui partent à la neige, au sport d'hiver.
Et voilà, pépette, et c'est une histoire de pépette. Et ça, c'est entre le mois de décembre et mars, quand même. Hein, donc, c'est vraiment sur ces trois mois. Donc, ça reste quand même privilégié pour les plus aisés, pour les urbains aussi, qui ont besoin de neige, de calme et aussi de vitesse avec le ski. Et en plus, sur ces 10%, il n'y a qu'une... c'est pas la majorité qui fait vraiment du ski. Ouais. Et il faut savoir que pourtant, culturellement, c'est vachement ancré dans l'imagerie des Français, parce qu'effectivement, on a quand même le plus beau domaine du monde de ski, le plus grand aussi, dans les Alpes. Bon, je parle pas des Pyrénées, je connais moins, mais ils ont aussi un très très beau domaine. Et en fait, j'ai regardé un peu l'histoire, ça fait seulement depuis 72 qu'on a instauré, vous savez, les trois zones de février. Ouais. Et donc, c'était justement les professionnels de la montagne et du tourisme qui ont dit, il faut pas une zone pour rentabiliser nos installations, il en faut trois. Et c'est depuis 72 qu'on a tout le mois de février de vacances pour rentabiliser un peu les installations de ski. Mais ça reste quand même une économie assez importante pour la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, enfin, les Pyrénées. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter, mais ça concerne une minorité quand même.
Allez, vous allez nous donner des idées pour les vacances d'hiver ou pour un week-end. Adeline Baldacchino, en cette période froide, l'appel des bains chauds à Budapest est assez tentant, hein.
Bah, oui, moi c'est ce que je me suis dit. Je pense qu'en hiver c'est pas mal. Parce qu'effectivement, d'abord, on a une belle ville à Budapest. C'est beau, il y a de quoi faire, il y a de la culture, il y a tout ce qu'on veut. Il y a le bastion des pêcheurs, le château, le parlement. Enfin, il y a quelque chose d'un peu presque gothique qui fait un peu rêver. Mais aussi, on peut aller passer une après-midi entière ou surtout, c'est le mieux, une soirée dans des bains nocturnes. Et il y en a plein. Il y en a des très très beaux. Architecturalement, c'est extraordinaire. Les bains de Tchétchénie, les bains Gellert, mais il y en a un en particulier que j'adore pour l'avoir découvert il y a quelques années, c'est les bains Roudas, qui sont des bains ottomans qui datent de l'époque où la Hongrie avait été occupée par les Turcs, donc 16e siècle, avec une espèce de coupole, avec comme des vitraux qui font qu'il y a une sorte de lumière un peu mystique presque là-dedans, des bains à différentes températures, ça va jusqu'à 42 degrés, ils sont mixtes que deux ou trois fois par semaine en fin de journée, si on veut vraiment y aller, puisqu'on parle de Saint-Valentin avec son chéri ou sa chérie. Sinon, on peut juste y aller n'importe quand. Il y a aussi une partie plus moderne qui vient d'être créée et avec un bain chaud sur un rooftop, avec une vue sur tout Budapest. Et donc, j'avoue que je pense que là, si je devais choisir, j'irais peut-être là, mais il faut toujours aller dans un endroit avec un livre à lire qui parle de cet endroit. Et je recommanderais d'y aller avec un livre de Lola Gruber, qui est est paru l'année dernière, qui est assez extraordinaire, qui s'appelle Horn, venez la nuit, et qui est une histoire d'amour et d'espionnage sur fond d'histoire de l'Europe de l'Est, absolument extraordinaire.
Rappelez le titre de ce livre.
Horn, venez la nuit, de Lola Gruber, chez Christian Bourgois.
Allez, dans un instant, d'autres idées de destination pour un week-end ou pour les vacances d'hiver. En attendant, il est l'heure de retrouver le plaisir littéraire de notre libraire Théodore Dillerin du Comptoir des mots à Paris. Alors Théodore, votre plaisir littéraire du week-end, c'est Uva Spina, j'espère que je prononce bien,
c'est
Uva Spina de Monica Assito, et c'est traduit de l'italien par Laura Brion, et c'est publié aux éditions du Sous-Sol.
Absolument. Uva Spina de Monica Assito est une chronique familiale qui se passe à Naples dans les années 70-80. C'est pas précisément daté. Je vois que Guillemette s'enthousiasme déjà pour Naples.
Ah bah oui.
Chronique familiale autour de Graziella, la mère de famille qu'on appelle la dépareillée. Alors c'est vraiment des personnages de la Commedia dell'arte. Hein. Elle est pleureuse dans les enterrements. C'est là qu'elle va rencontrer son futur mari, Pasquale Riccio, un notaire et notable de la ville, avec qui elle va avoir deux enfants, Minuccia, la folle toupie, celle qui rentre dans des colères et qui détruit tout sur son passage quand elle se met en colère. Et Uva Spina, le garçon qui donne son titre au roman. Lui, il est fragile, il est sensible, efféminé d'ailleurs, victime de harcèlement et d'homophobie. Et tous les mercredis soirs, lorsque son mari parle à tromper, Graziella met en scène sa mort entourée de ses deux enfants. Et chaque mercredi, bien sûr, elle ne meurt pas et on la retrouve le mercredi suivant. Je vous parlais d'amour tout à l'heure, parce que cette Uva Spina, qui est le personnage principal du livre, va être sauvée de la noyade par Antonio, un beau pêcheur, qui va lui raconter des milliers d'histoires et lui apprendre ce qu'est l'amour. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Ali. Le personnage principal de ce livre n'est aucun de ceux que je viens de vous citer. C'est cette ville, Naples, qui fourmille. On se perd entre ses ruelles. Elle est peinte avec passion et tendresse par Monica Assito. On y retrouve à la fois ses églises magnifiques, sa gastronomie et ses odeurs. Ces 450 pages absolument bouleversantes où s'entremêlent l'amour, la fougue et la violence, le sel de la mer tyrrhénienne et l'immensité du ciel napolitain. C'est absolument superbe. C'est un premier roman. Et ça,
c'est un premier roman.
Ouais, je tiens à le préciser parce que je l'ai fait lire beaucoup autour de moi. Vous voyez mon exemplaire, il est tout corné, annoté. Il y a des taches de café, d'huile d'olive
sur la tranche.
Alors ça, c'est du café. Il doit y avoir de l'huile d'olive et des larmes séchées à l'intérieur. Et je l'ai prêté à un ami qui est un très très bon lecteur et qui m'a dit waouh, mais quand on a écrit ça comme premier roman, qu'est-ce qu'on écrit derrière? Et je dois avouer que je me suis posé la même question. C'est vraiment impressionnant de maîtrise, une langue sublime, magnifiquement traduite par Laura Brignon. Vous l'avez cité. Ça faisait peut-être un an ou deux que j'avais pas lu un livre qui m'avait autant bouleversé. Donc vraiment, je vous encourage à le lire. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu un coup de fil de l'éditeur. Il se trouve que Monica Assito vient à Paris quelques jours en avril. Elle fera une date en librairie.
C'est quel jour ?
Ça sera le 3 avril
au
à 20h au Comptoir des mots, absolument. Et voilà, et quelques jours avant, il me semble d'ailleurs, Ali, qu'on s'y croisera, car le 26 mars, si j'ai bien noté, à 20h, c'est vous qui prendrez place sur mes fauteuils.
Ah oui, pour le nouveau Tantalis.
Pour le numéro 2.
Merci de m'accueillir en tout cas.
C'est
merci
avec plaisir.
Merci de m'accueillir.
Donc 26 mars à l'IREBI, 3 avril Monica Assito.
Et ça s'appelle Uva Spina de Monica Assito. Je crois qu'Adeline Baldacchino et Guillemette Odissino lorgnent cet exemplaire-là taché et corné. Alors, mais vous allez nous expliquer hors antenne.
On va se partager.
Donc, Uva Spina de Monica Assito, c'est aux éditions du Sous-Sol avec une traduction signée Laura Brignon. Merci Théodore, on vous retrouve
merci
donc au comptoir des mots. Elle a de longs cheveux, elle n'a pas de barbe comme Théodore, mais elle est aussi érudite que lui. Guillemette Odissino nous présente son ami du vendredi. Et j'aime beaucoup votre ami.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Qu'est-ce que je l'aime, votre ami, Guillemette?
Eh oui, chère Ali, je voudrais vous parler d'un pionnier. Il est né en 1958, il ne fait pas plus d'un mètre, il porte un chapeau rouge un peu mou, il est marron et il a fait un long voyage. C'est Paddington. Mercredi 5 février, le petit ours est revenu sur les écrans. D'ailleurs avec une histoire extra qui parle d'Eldorado. Je ne sais pas si ça existe encore. Et de famille d'accueil. D'accueil. Je le répète, j'ai peur que ce mot disparaisse du dictionnaire. Et j'aimerais dire combien cette figure de l'antiracisme est mon amie. Je ne suis pas la seule à être certaine que ce personnage délicieux incarne l'immigration. Dans un article de recherche, l'universitaire Angela Smith est revenue sur ses origines. Dans les années 50, Londres devenait de plus en plus multiculturelle, avec l'arrivée, d'ailleurs dès les années 40, de beaucoup d'Antillais, qui n'étaient pas très bien accueillis. Elle était 58, quelques mois seulement avant la publication du premier livre Paddington, éclatèrent d'ailleurs certaines des pires émeutes raciales en Grande-Bretagne, et en particulier à Notting Hill. Et comme par hasard, c'est là que Paddington est recueilli, à Notting Hill, par la famille Brown. La scène, si belle d'ailleurs dans le premier film, est parlante. Après donc un long voyage, voilà le petit ours seul et perdu sur le quai de la gare de Paddington, avec autour du cou cette étiquette de bagage au texte bouleversant. « Veuillez prendre soin de cet ours. Merci. » L'auteur du livre, Michael Bond, s'était inspiré des enfants évacués de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il voulait même au départ que son petit personnage arrive d'Afrique. Alors, comme les éditeurs rechignaient, il choisit le Pérou.
Et il arrive donc clandestinement, votre ami Paddington?
Ah, absolument. Il a embarqué clandestinement sur un petit bateau. Son nom est un grognement dans sa langue. Et monsieur et madame Brown lui donnent donc un prénom britannique, comme le faisaient à l'époque les agents d'immigration. Paddington pense avec candeur qu'il n'a qu'à demander gentiment un logement pour l'obtenir. Alors oui, cette famille finit par vraiment l'accueillir, mais elle ne lui demande même pas au départ quel est son passé. Le seul qui lui pose des questions, c'est monsieur Gruber, un immigré qui a fui la Hongrie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il apporte quoi Paddington à cette famille, et d'ailleurs à tout un quartier, enfin en dehors du sale voisin qui ne pense qu'à, je cite, le renvoyer d'où il vient. Il apporte une nouvelle vitalité. Il apporte les enseignements délicieux de Tante Lucie, pardon, c'est pas Tante Alice, de Tante Lucie, sur la politesse, la bienveillance. Puis bien sûr, il apporte son obsession pour la marmelade, qu'il sait cuisiner d'ailleurs mieux que les Anglais. Et puis quand franchement les humains dépassent les bornes, qu'ils sont trop agressifs, intolérants ou cupides, le maladroit, burlesque et si tendre Paddington fait ce regard long et dur que lui a appris Tante Lucie. Et alors c'est dingue, son interlocuteur à ce moment-là a soudain très très chaud et très très honte. Alors le nombre de ministres, de députés, de présidents en ce moment qui mériteraient de se faire regarder ainsi par mon Paddington. Parce qu'un peu plus d'humanité, tout de même, c'est pas le Pérou.
Paddington au cinéma actuellement avec la voix de Guillaume Gallienne.
Alors oui, et alors franchement là, vous pouvez vraiment emmener vos enfants d'abord revoir les deux premiers qui sont extras et aller en salle voir le troisième en VF, parce que la voix de Guillaume Gallienne est une splendeur de tendresse, de politesse. Elle est britannique en français. vraiment, c'est un petit régal de doublage.
Tous les épisodes de L'Ami du Vendredi sont à retrouver sur l'appli Radio France. Vous vouliez dire quelque chose, Julie Neveu?
J'y vais demain.
Vous m'interrompez pour dire un truc aussi passionnant. Merci Julie Neveu, merci beaucoup. Et puis en ce jour de la Saint-Valentin, vous pouvez retrouver notre série de podcasts On va s'aimer. L'idée, c'est de mieux comprendre les rouages de l'amour parmi les épisodes, de comment survivre à la Saint-Valentin quand on est célibataire, des épisodes à retrouver dans la série de podcasts On va s'aimer sur l'appli Radio France et sur toutes les plateformes. Dans un instant, quelques destinations pour un week-end ou pour les vacances d'hiver. On se retrouve juste après avoir écouté Shirley Bassey, Light on My Fire, une chanson de 1970. Grégory Cohen avait à peine 2 ans. 10h24 sur France Inter. We couldn't get much higher. Shirley Bassey interprétait Light My Fire.
Grand bien vous fasse.
Bon, on fait quoi? On va pas rester à Lyon, non?
La dernière minute, trouver un plan B, c'est un job. Hein.
Moi, j'ai un plan B. B comme Bretagne. Voilà, on va tous chez moi à Carzelac.
Sur France Inter.
Grand bien vous fasse, week-end et quelques destinations pour le week-end ou pour les vacances d'hiver. Et Sandrine Mercier, rédactrice en chef de la revue de voyage AR, eh bien on part en Bretagne, la Bretagne en hiver. C'est à la fois vivifiant et assez sublime.
Et intriguant, on peut le dire, puisque là on va aller voir les mégalithes de Carnac et on va aller sur la rive sud du Morbihan aussi, parce qu'ils sont bien partis, figurez-vous, pour être classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce sera en juin 2025, on aura sûrement un site de génial, plus en France. Et dans la région, il y en a quand même plus de 3000 menhirs. Alors moi, je vous propose de faire le tour des alignements des menhirs de Carnac, et il y a plein de tumulus aussi, en tuk-tuk. Moi, je l'ai fait en tuk-tuk avec Olivier, dit monsieur tuk-tuk, et il a découvert ça à Lisbonne et il s'est dit mais ce serait pas mal non plus dans ma Bretagne natale. Et donc c'est léger, c'est sobre et c'est plus drôle qu'en voiture. Et Olivier, il est vraiment originaire de la région et donc il jouait gamin, lui, entre les menhirs. C'était encore autorisé. Il me disait même ça servait de parking à l'époque. On se garait là entre les menhirs dressés. Et alors, bien tout ça, c'est interdit hein, maintenant depuis 91. Il fallait justement les protéger parce qu'ils avaient quand même tendance à tomber. Mais en hiver, et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler là en hiver, figurez-vous que c'est quand même autorisé de marcher dans tout cet espace autour des alignements de Carnac, si vous l'avez déjà fait, parce que justement, on peut se promener librement, et donc ça vaut le coup vraiment d'y aller en ce moment, et on apprendra, parce qu'il y a un musée à côté qui raconte toute cette histoire pour essayer de percer ces mystères, on apprendra que la taille des menhirs, eh bien ce n'est pas comme Obélix le fait. On apprendra la vraie histoire. Sur la presqu'île de Quiberon, juste un peu en dessous, il y a la côte sauvage, et ça, je pense que c'est bien de se prendre des bonnes volées de vent en ce moment, et pourquoi pas d'eau, s'il pleut, on ne sait jamais. Mais il y a une côte beaucoup plus, moins connue, je dirais, c'est le Ria d'Etel. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Ria, la Ria d'Etel. En fait, c'est un mélange de rivières et de bras de mer qui rentrent à cet endroit-là, qui s'appelle donc l'Etel. C'est beaucoup moins connu qu'ailleurs. Et en fonction des marées, justement, le paysage change complètement, puisque la marée fait que tout le paysage se modifie. Et donc, en fonction des moments où on y va dans la journée, eh bien, ça change. Par contre, il y a une photo qui est très célèbre, et vous connaissez peut-être cette petite maison au volet bleu, qui est posée comme ça sur un caillou rocheux, juste en face de l'île de Saint-Cadeau. On a vraiment l'impression que le temps s'est arrêté ici. Et il y a cette maison perdue au milieu du Ria, sur un rocher. Avant, elle servait à un ostréiculteur, je crois, qui veillait justement sur les parcs ostréiculteurs de cette région. Maintenant, elle est plus habité, mais il y a quelqu'un qui habitait ici, qui tous les matins partait avec son petit bateau pour rejoindre la côte. Et si jamais il pleut, mais ça n'arrive jamais, on peut visiter à Quiberon. Ils sont assez forts pour produire des spécialités très régionales et on peut visiter complètement le processus. Ça s'appelle du tourisme de visite d'entreprise. Il y a la Niniche. Vous connaissez la Niniche ?
C'est quoi ça, la Niniche ?
L'amour food, non, le spécialiste de la...
Ouais, ça se mange.
Si, ça se mange, c'est les espèces de petits...
C'est une petite sucette un peu cylindrique.
Très sucrée.
Qui colle aux dents, très sucrée.
Voilà, et c'est la Niniche.
Et c'est la Niniche de Quiberon. Et on peut visiter tout le processus. Ça incarne vraiment la région. C'est un peu comme les bêtises de Cambrai. Et on visite donc le processus. On peut en acheter après. Il y a quand même une quarantaine de parfums maintenant. Et juste en face, il y a la conserverie de la Belle Illoise, c'est à Quiberon. Et là, ils ont imaginé un parcours, on voit toute la mise en boîte des sardines, et il y a même un écomusée pour raconter l'histoire de la région. Et à chaque fois, on peut faire ses emplettes. Et voilà.
David Habitant, rédacteur
si vous aimez les sardines et les crêpes.
Et j'aime les sardines d'ailleurs, et j'aime beaucoup Quiberon, je voulais dire, j'adore cet endroit-là, qui a ce petit inconvénient, dès qu'il y a un petit peu de monde, vu que c'est une seule route qui descend, elle peut être assez vite être prise, mais... Comme Thibaut de Saint-Maurice et moi-même, on adore les trains. On sait qu'il y a un incroyable train qui passe là-bas, qui est magnifique. On voit la mer d'un côté et de l'autre, c'est superbe.
Et en hiver, il y a moins de monde.
Adeline Baldacchino, écrivaine, haut fonctionnaire et voyageuse devant l'éternel. Direction la Bretagne, également avec vous, pour découvrir l'île de Groix en hiver.
Ah oui, alors l'île de Groix, déjà, c'est extraordinaire. Elle est moins connue que Belle-Île. Elle est au nord-ouest de Belle-Île, en fait. On peut y aller en navette maritime depuis Lorient. Il y en a tous les jours. Ça dure 45 45 minutes. C'est 30 euros l'aller-retour, ça se fait très facilement. On n'y pense pas en hiver, alors que c'est extraordinaire, ouais. Parce que justement, et alors en plus en un jour de Saint-Valentin, on peut le dire, qu'on y aille en amoureux ou qu'on y aille au contraire avec un peu une espèce de nostalgie mélancolique, on peut faire de longues Greg. Balades le long de la, le long de la plage. Et
Grégory
elle s'appelle...
Non, mais je vais me prendre là.
Au contraire, parce que c'est l'île au Grenat. Ah. Et donc, il y a du sable rouge. Et le sable rouge, ça donne envie de se baigner quand il fait un peu plus chaud, parce que là, ce serait un peu difficile quand même en ce moment. Mais il y a, au-delà de cette petite plage de sable rouge qui est extraordinaire, il y a aussi l'unique plage convexe d'Europe, c'est-à-dire une plage, en fait, comme deux courants maritimes se rencontrent. La plage avance, rentre dans la mer, et elle se déplace, en plus, de jour en jour. Le banc de sable est jamais au même endroit. Et c'est assez extraordinaire, c'est très très beau. Et puis évidemment, il y a, alors elle ne fait que 8 km sur 3 de large, ce qui fait qu'on peut tout faire à pied évidemment, on peut aussi prendre la voiture, mais enfin franchement ça ne vaut pas la peine. Et on peut aller de phare en phare, il y a le phare de Penman qui est extraordinaire, il y a vraiment deux géographies, une avec des falaises très hautes et un autre côté où c'est plus plat. Il y a un endroit qui s'appelle le Trou de l'Enfer, qui est une sorte de grotte à laquelle s'attachent des légendes extraordinaires. Alors en plus en hiver, on peut rêver de ça au coin du feu, en dégustant une galette. On dit qu'il y avait là-bas une sorte de monstre dont parle l'historien de Groix dans ses histoires de marins, qui ressemble un peu au Gruffalo, pour ceux qui ont des enfants. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein, qui a une sorte de trogne bizarre, avec des yeux et des oreilles faites en coquillage et qui sortirait la nuit en grognant. C'est vraiment très beau. Les couleurs aussi, en fait, sont très très puissantes. Un mélange de vert, de jaune, des mousses, des fleurs et puis évidemment de la mer qui est parfois même turquoise. C'est magnifique et voilà, on peut y lire en plus une écrivain extraordinaire, un peu oubliée, qui s'appelle Anne Pollier et qui a écrit un très beau livre sur les femmes de Groix en particulier et la laisse de mer. Qu'est-ce que laissent les vagues sur la plage quand elles se retirent?
On part à Groix, Guimette?
Ah mais grave! Mais je laisse tomber les causes directes, moi là.
Thibaut de Saint-Maurice.
Souvenir extraordinaire d'une soirée chez Tibidoff sur le port de Groix après une journée de navigation par une mer agitée en février, il y a 25 ans. On était morts de froid et trempés, mais la chaleur de ce bar nous a réchauffé toute la soirée.
Redonnez le nom, s'il existe encore.
C'est Tibidoff, c'est une institution mondialement connue.
Je ne connaissais pas, pardonnez-moi mon cher Thibaut de Saint-Maurice. David Habitant, rédacteur en chef de Théma.archi, direction Valence, dans la Drôme.
Mais oui, parce que, en février, il y a toute une moitié de la France qui commence à sérieusement manquer de vitamine D. Alors, je vous propose d'aller précisément là où se situe la limite entre la pluie et le beau temps. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait scientifique, mais mon observation personnelle, c'est qu'à chaque fois que je prends le train entre Paris et Avignon, eh ben, dès qu'on passe Valence, les nuages s'en vont. Alors, qui séjourne à Valence à la recherche d'un peu de soleil s'arrêtera d'abord sur le Champ de Mars, donc la grande place principale de la ville avec son revêtement blanc comme ça qui reflète intensément le soleil, lui-même assez intense à Valence. On s'installe à la terrasse d'un café et on en profite pour respirer une dernière fois un grand coup parce qu'ensuite on va s'engouffrer dans des toutes petites ruelles étroites du centre historique de Valence où on va notamment voir la Maison des Têtes, c'est cet hôtel particulier du XVIe siècle avec une façade gothique ornée de plein de sculptures. C'est très joli d'ailleurs, tout le monde vous en parlera. Et c'est vrai que l'architecture du bâtiment est loin d'être inintéressante, mais ce qui me semble plus intéressant encore, c'est qu'elle abrite le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de la ville. On appelle ça le CIAP, C-I-A-P. Et c'est, à mon avis, le point de départ idéal pour découvrir la ville. On a toute une histoire du lieu, de comment l'urbanisme s'est mis en place avec les époques. Dans le centre ancien également, les Halles Saint-Jean, surtout les jours de marché, c'est voilà, des anciennes halles métalliques du 19e siècle qui aujourd'hui deviennent un lieu de vie au cœur du centre ancien de Valence. Mais ce qui justifie avant tout le séjour à Valence, à mon avis, ce sont deux bâtiments qui sont pas précisément à Valence, mais juste après, juste à côté. D'abord, la cartoucherie de Bourg-les-Valence. Il faut suivre la grande cheminée qui dépasse des toits. Et là, on va découvrir cette ancienne manufacture d'armes qui a été reconvertie en un pôle d'images animées. En gros, on a des écoles, on a un studio, tout un ensemble dédié au film d'animation. Et ça a été magnifiquement réhabilité par Philippe Prost, qui est un de nos grands architectes, exposé en ce moment à la Cité de l'Architecture à Paris, d'ailleurs. Bref, c'est un exemple de patrimoine industriel qui est magnifiquement reconverti et en prime, il y a un parc qui est ouvert à tous. Et alors, d'une friche industrielle, on peut passer à un tout autre type de ruine. Là, il faut traverser le Rhône. On était dans la Drôme jusqu'à présent, mais à pied, à quelques minutes de marche, on se retrouve en Ardèche. Et après encore quelques autres minutes de marche et une bonne grimpe, on va découvrir le château de Crussol. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce lieu absolument magique. Ouais, donc Guimette ne me contredira pas, je crois.
C'est l'Ardèche.
Voilà, évidemment.
L'Ardèche, territoire de trésor absolu.
Exactement. Là, on est au nord de l'Ardèche, mais c'est peut-être un des lieux qui je ne sais pas si ça représente tout le reste. En tout cas, c'est assez exceptionnel. D'abord, on est comme sur un belvédère, comme ça, avec une vue magnifique sur toute la région. Et puis, on découvre ce château médiéval, donc le château de Crussol, dont il ne reste que des ruines. Mais quelles ruines, c'est beau à pleurer.
Je vais aller, à Valence avec Julie, parce que je vais à Groix avec Guillemette. Merci David Habitant. Sandrine Mercier, si on filait dans les Pyrénées catalanes, cher à David Habitant, je le sais, parce que vous habitez en partie là-bas dans l'année. Et ça va faire plaisir à ma mère en plus, les Pyrénées catalanes.
Alors on va de l'autre côté, on va vraiment en Catalogne.
Catalogne,
ouais, carrément de l'autre côté, parce qu'ils sont désignés région mondiale de la gastronomie en 2025. Je ne sais pas si tu le savais, oui. Greg. Ouais. Et parce qu'ils sont vraiment engagés en faveur d'une cuisine locale et vivante. Et donc, je vais vous donner juste quelques spots comme ça pour vivre des expériences culinaires assez incroyables. Dans les Pyrénées de Catalogne, justement, il y a la cuisine volcanique, parce qu'on est sur un terrain volcanique. Et dans la ville de Vic, là, on est à une grosseur au nord de Barcelone, il y a le plus beau marché de la Catalogne. On me l'a assuré, c'est le plus beau marché. Et on peut aller chez la Teresona. Ça fait 6 générations qu'ils font du saucisson et qui font des produits issus de la transformation du cochon. Ils font tout eux-mêmes et vous pouvez même apprendre là-bas à faire votre saucisse. Vous mettez votre jolie petite blouse blanche, votre petite calotte et avec le boyau, enfin vous apprenez comme un bon
Grégory
paysan.
Fait son saucisson lui-même.
Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est quoi le truc?
Non, mais on peut plonger les mains dedans et on apprend vraiment à le faire comme à l'époque et vous repartez avec votre saucisse. Et vous repartez par exemple plus bas, dans le sud de Barcelone, on peut aller sur la Costa Daurada. Et là, c'est un trésor d'architecture moderniste, grâce à Domènech i Montaner, qui a construit effectivement des bâtiments très très impressionnants. Mais c'est aussi la capitale du vermouth. C'est italien, mais en fait, ça s'est développé là-bas. Et à l'époque, il y avait une trentaine de caves, il y a un siècle. Il y en a beaucoup moins maintenant, mais c'est vraiment un grand plaisir d'aller siroter son petit verre de vermouth avec une olive. Et on va terminer dans le sud, sur les terres de l'Èbre, avec ses rizières à perte de vue. Et là, on peut aller déguster des arrozos. On ne dit pas des paella là-bas, on est en Catalogne. Et vraiment, celle avec du riz, le riz est grillé, l'encre de sèche, c'est revenu à point où il y a des fruits de mer. Et on prend tout ça sur des petits restos, sur des pilotis qui donnent sur les rizières.
Ouais, la arrozos, elle est assez exceptionnelle. Il y a une toute petite couche de riz, en fait. C'est pas comme la paella, où il va y avoir beaucoup de riz, peut-être 2 cm ou 3 cm de riz. Là, on est vraiment sur un demi-centimètre de riz et du coup, c'est hyper croustillant. C'est assez bon.
David Habitant, un voyage près de chez soi, si on est parisien, si on habite en région parisienne, vous nous invitez à découvrir Ivry-sur-Seine. Eh bien, pour découvrir justement l'architecture brutaliste. L'architecture brutaliste dans l'actualité en ce moment avec le film The Brutalist en salle.
Oui, effectivement, l'architecture brutaliste, vous savez, ce sont ces bâtiments des années 50 à 90 en béton brut. Le mot brutalisme, ça vient du béton brut, c'est pas d'une quelconque brutalité. En tout cas, il y en a un très très bel exemple à Ivry-sur-Seine qui justifie à lui seul... Alors, de partir en vacances, je ne sais pas, mais au moins une bonne balade. C'est un ensemble de logements qu'on appelle les Étoiles, conçus par Jean Renaudy et René Gailloustet, René E.E., une grande architecte qui nous a quittés il y a 2 ans. Ce sont des immeubles de logements un petit peu particuliers, c'est-à-dire qu'au lieu que les étages soient tous les mêmes, ici, on a chaque niveau qui va avoir un plan différent de celui d'en dessous, avec des pièces en forme de triangle qui dépassent d'un côté de la façade ou de l'autre. Ça donne un ensemble assez marquant, comme un grand bâtiment de béton avec plein d'épines, un côté science-fiction. D'ailleurs, ça a même servi de décor pour le dernier film Hunger Games, il y a quelques années, figurez-vous. Mais au-delà du brutalisme, si j'ai un petit peu de temps, d'autres bâtiments marquants dans les environs, qui résument assez bien ce que la fin du XXe siècle a produit comme architecture monumentale. Je pense notamment au Shinagora. Le Shinagora, pour ceux qui prennent la A4 en entrant dans Paris, vous voyez sans doute de quoi je parle. On est entre Ivry-sur-Seine et Alfortville, exactement à la confluence de la Seine et de la Marne, donc c'est un emplacement très visible. Et là, il y a cette espèce de pagode chinoise taille XXL, d'aspect traditionnel, mais construite en béton en 1992. C'est un grand complexe hôtelier avec un énorme restaurant au rez-de-chaussée qui nous transporte, alors, pas forcément en Chine, mais au moins dans un autre monde, dans une autre époque. Personnellement, j'adore ce lieu, mais voilà, je ne sais pas dire. Est-ce que c'est
redonnez le nom.
Est-ce que c'est typique. C'est le Shinagora.
Shinagora.
Voilà, quand j'étais petit, chez moi, on appelait ça Chinagora. J'ai découvert que ça se passait que dans ma famille. On dit bien Shinagora, voilà.
Merci beaucoup pour ce conseil, mon cher David. Pour terminer, Adeline Baldacchino, voyage immobile, voyage en chambre ou dans son canapé, en lisant « Vers les îles éparses » d'Olivier Rollin, publié le mois dernier chez Verdier. « Vers les îles éparses » d'Olivier Rollin.
Oui, alors c'est un tout petit livre et en même temps il vous embarque immédiatement. En fait, Olivier Rollin, qui est l'auteur de très très beaux livres de voyage, du météorologue, d'Extérieur Monde il y a 2 ou 3 ans, a été embarqué sur un bâtiment de la Marine nationale, le Champlain, comme remerciement pour avoir écrit une préface Thucydide pour l'école de guerre. Bref, il raconte ça au début avec beaucoup d'humour. Et il part vers ces petites îles qui se trouvent dans le canal du Mozambique et qui sont régulièrement ravitaillées par ce bâtiment de la Marine nationale. Et il se trouve là, au milieu de gens très jeunes, qui ne l'ont pas lu, qui n'ont pas forcément beaucoup lu d'ailleurs en général. Et il est dans une sorte de décalage complet, qu'il raconte avec beaucoup de tendresse, beaucoup de bienveillance. Et donc, c'est plein de ces annotations, de ces observations qui font la force d'Olivier Rollin. D'humour aussi, très drôle, parce qu'il dit « Bon, l'océan Indien devient un peu pour moi la mer de la sénilité. Pour la première fois, je me sens vraiment vieux par rapport à tous ces jeunes gens, mais c'est aussi une ode extraordinaire à la nature, c'est jubilatoire, c'est solaire, il décrit les coquillages, la couleur du sable et des eaux de la mer qui changent, et donc voilà, c'est une petite croisière que vous faites en sa compagnie dans un lieu improbable où vous n'aurez probablement pas l'occasion d'aller, je pense que c'est assez rare dans une vie d'aller dans les îles éparses, mais ça vaut la peine d'y aller avec lui.
Petite croisière depuis son canapé ou son lit, ça s'appelle donc Vers les îles éparses d'Olivier Rollin, et c'est publié chez Verdier. Guillemette ?
Non, c'est juste l'appellation les îles éparses.
C'est très très joli.
C'est sublime cette expression.
Allez, il est l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, Thibaut, vous vous souvenez que c'est la Saint-Valentin et aujourd'hui, et vous vous demandez donc ce qu'il nous reste à apprendre de l'amour.
Oui Ali, l'amour est partout aujourd'hui et depuis quelques jours, encore plus avec cette fête de l'amour romantique qui invite tous les couples à des démonstrations d'affection à grands coups de boîtes de chocolat, de cadeaux en tout genre et de dîners au restaurant. L'amour est partout et pourtant, il n'est pas certain que nous le connaissions bien. Alors c'est un problème dont j'ai pris conscience récemment. Comme beaucoup d'entre nous, je croyais presque tout savoir de l'amour, être un peu blasé. J'ai lu des philosophes pensant sur l'amour, j'ai lu des romans d'amour, j'avais même poussé vers quelques poètes, hein, mignonne, allons voir si la rose. Je connais Roméo et Juliette ou Cyrano et Roxane, je suis fan absolu de comédies romantiques et surtout, je suis moi-même tombé amoureux, comme on dit, et même plusieurs fois. Et puis comme beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression d'aimer selon toutes les partitions possibles de l'amour. J'aime ma compagne, j'aime mes enfants, ma mère, ma famille au sens large. Je peux même dire que j'aime certains de mes amis, mais je ne vous dirai pas lesquels. Et pourtant, il a suffi d'un livre pour comprendre que je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour, ou du moins que je ne m'étais pas toujours posé les bonnes questions.
Vous m'aimez bien, moi, quand même.
Je vous dirai plus.
Et ce livre, c'est « À propos d'amour » de la philosophe américaine Bell Hooks.
Oui, 240 pages très claires, sans aucun mot ou sans aucune référence compliquée. 13 chapitres lus il y a 2 ans et fréquemment relus depuis, qui ont changé ma compréhension de l'amour. À la première personne, en relisant sa propre vie, Bell Hooks commence par pointer les contradictions de ce qu'elle appelle notre culture de l'amour. Nous vivons dans une culture pleine d'histoires d'amour, animée par une quête désespérée de
l'amour, par de grandes déclarations, de grandes passions, de grandes ruptures, mais qui ne nous permet pas de comprendre ce que c'est que de donner et de recevoir de l'amour. Pourquoi ? Parce que justement, nous ne le connaissons pas vraiment. D'abord, nous confondons l'amour avec l'attraction sexuelle. Et puis, nous le réduisons ainsi au désir. Ensuite, nous confondons l'amour avec le soin que nous prenons des autres ou l'attention que nous leur consacrons. Par exemple, nous croyons aimer nos enfants parce que nous prenons soin d'eux. Nous les nourrissons, nous les soignons quand ils sont malades, nous les protégeons. Mais cela relève davantage de l'éducation que de l'amour, nous dit Balloux. Enfin, on accepte l'idée que les hommes et les femmes n'ont pas la même définition de l'amour, que l'amour n'a pas le même sens selon que l'on soit un homme ou une femme. Et c'est pour cela donc qu'on accepte l'incompréhension et que même on tolère jusqu'à ce que la violence fasse partie de l'amour. À ces contradictions que détricote patiemment Bell Hooks, elle propose une autre approche. L'amour, dit-elle, n'est pas un sentiment, mais un acte de la volonté, un choix qui s'exprime donc par des actions. Exit donc les grands fantasmes de l'illusion sentimentale, où l'on ne parle finalement que de ce qui nous traverse le nombril sans se soucier d'agir pour l'autre. L'amour, pense-t-elle ensuite, se reconnaît à ce qu'il nourrit, ce qu'elle appelle notre croissance spirituelle et celle de l'autre. Il commence donc quand il sécurise, quand il respecte, quand il élève et quand il augmente la liberté de celui que l'on aime. Exit donc là aussi la possession, la domination, la dépendance. Pour Bell Hooks, il n'y a pas d'amour sans justice dans le détail de nos relations les plus intimes et les plus ordinaires, comme à l'échelle de toute notre culture. On le reconnaît alors non pas à la puissance d'un sentiment qui nous transporterait hors de nous-mêmes, mais au fait qu'il nous rend patiemment justice et qu'il nous installe solidement à la seule place qui puisse nous rendre heureux, la nôtre, et non pas celle que l'autre veut pour nous. Voilà, je ne vous ai raconté que le tout début, ça s'appelle « À propos d'amour » de Bell Hooks, c'est un joli livre violet aux éditions Divergence, et si vous n'avez pas d'idée, c'est donc le parfait cadeau de Saint-Valentin.
Vous nous avez donné envie, Thibaut de Saint-Maurice, « À propos d'amour » de Bell Hooks. J'en profite pour saluer la présence dans notre studio de notre fidèle auditrice Annick Baudin, qui arrive du Poitou avec son Valentin. Voilà. Allez, après les nourritures intellectuelles, les nourritures terrestres de Grégory Cohen. Alors, mon cher Grégory Cohen, chef du One Place à Rungis dans le Val-de-Marne, la semaine dernière, de nombreux auditeurs, dont moi, ont regretté de ne pas avoir de recette de gaufres inratable. Et voilà, vous nous la donnez ce matin.
Incroyable, incroyable. Cette pensée, là, cet esprit, cette connexion entre nous.
J'ai un peu tendu le bras quand même.
Oui, un petit peu quand même. Ouais. Alors, la recette, ça va être une recette de gaufres liégeoises. Pour faire cette recette, il nous faut 375 g de farine, 22 centilitres de lait tiède. Tiède, c'est important parce que ça va nous permettre d'activer la levure boulangère. Donc, un sachet de levure boulangère, deux œufs, un sachet de sucre vanillé. Si on peut le faire soi-même, c'est très bien, sinon on l'achète. 150 g de beurre fondu, 100 g de sucre perlé et un tout petit peu de sel. Alors, elle est hyper simple cette recette. Si vous voulez d'ailleurs en plus, vous pouvez rajouter un peu de rhum. Un peu plus coquin, moi j'aime bien. Mais bon, ok, on y va. Dans un grand bol, on va mélanger tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre vanillé et le sel. On va faire un petit puits dedans, on va casser les deux œufs. Ensuite, on va dissoudre dans un verre la levure avec le lait tiède. Ça va évidemment activer la levure. On met le liquide avec les œufs au milieu du puits et là on commence à mélanger. On va avoir une pâte assez homogène mais en même temps assez compacte. On va couvrir cette pâte et donc le bol avec un linge, alors idéalement propre, voilà, c'est mieux, et laisser reposer la pâte pendant environ 30 minutes à température ambiante. Ensuite, une fois qu'elle aura fait son premier repos, on va rajouter le beurre fondu et le sucre perlé à la pâte. Donc c'est pour ça que ça se fait en deux fois. On mélange pour bien incorporer. La pâte deviendra plus souple, mais attention, elle n'est pas liquide. Ça reste une pâte qu'on peut tenir dans sa main. On la laisse reposer une seconde fois, 20 à 30 minutes avant de l'utiliser. On va préchauffer son gaufrier. Ensuite, on va portionner avec une cuillère à soupe des morceaux de pâte à gaufres et on va la déposer au centre des plaques bien chaudes. On laisse cuire jusqu'à ce que les gaufres soient bien colorées, bien dorées. La cuisson, elle est généralement rapide. Alors, il faut surveiller vraiment attentivement cette cuisson. Ces gaufres liégeoises, elles sont prêtes, mais très rapidement. Elles sont délicieuses et complexes parce qu'elles sont moelleuses à l'intérieur et légèrement croustillantes à l'extérieur avec des éclats de sucre perlés caramélisés pour une touche canaille irrésistible que l'on peut consommer seul.
Adeline Baldacchino, vous avez pris des notes, mais vous pouvez retrouver cette recette de gaufres inratables sur la page Instagram de Grégory Cohen. Grégory Cohen off, off avec
deux F.
Et dans un instant, la chronique de notre linguiste préféré, Julie Neveu. On se retrouve juste après avoir écouté Étienne Daho, Les Petits Criminels.
J'avais offert un bouquet d'immortels, gage de constance éternelle, de constance éternelle. Mais égaré dans des galaxies parallèles, entre combustions et dégels, combustions et dégels. Sacré cœur en plein ciel, ultime duel à l'autel, où les anges sont infidèles, où les anges sont infidèles.
Étienne Daho interprétait Les Petits Criminels.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, pour la Saint-Valentin, Julie Neveu, linguiste, je le rappelle, vous nous parlez des métaphores qu'on utilise quand on parle d'amour, quand on aime d'amour.
Oui, quand on aime d'amour et d'amour amoureux, Ali. Parce que quand on éprouve une émotion assez intense, comme une bouffée de gratitude, on peut dire « Oh, t'es vraiment un ange » à sa mère, son amie ou son amante. Mais « Tu es le soleil de ma vie, je me consume sans toi » ou « Tout est gris quand t'es pas là », bah, a priori, c'est plutôt pour les personnes qu'on aime d'un sentiment amoureux. Alors, petite radiographie de ces métaphores du début à la fin d'une histoire d'amour. Tiens, histoire, première métaphore. On vit une relation comme un récit, on a besoin de le raconter, on lui donne un début, une fin, un sens. Les métaphores projettent une clarté ou une structure sur une expérience intime, souvent confuse, complexe. D'ailleurs, les métaphores du début de l'histoire sollicitent souvent la clarté, la vue. Il y a une évidence, littéralement ce qui se voit. De la lumière, mais une lumière puissante, qui reconfigure le paysage de manière bouleversante. J'ai un coup de foudre, tu es mon soleil. Plus le sentiment est intense, plus le langage enregistre un décentrement. On gravite autour de l'être aimé, on perd l'équilibre, on parle de folie, je suis folle de lui, ou de magie, je suis sous son charme. Il y a aussi bien sûr la métaphore de la chute, avec l'expression « tomber amoureux ». Elle est déjà dans un texte en latin du 2e siècle après Jésus-Christ, les Métamorphoses d'Apulée. C'est la douce Psyché qui découvre enfin le visage de son mari et amant, et qui c'est qui voilà, bah Cupidon lui-même, des boucles blondes, des joues roses, un corps de rêve, un corps de dieu, bah parce que c'est un dieu, le dieu amour, Eros en grec. Et Apulée écrit « Elle tomba en amour d'amour » en latin « in amaris incipit amorem ». L'expression « tomber amoureux » se popularise en français vers le 18e siècle avec Marivaux, le dramaturge des débuts de l'amour. Alors bien sûr, l'Académie française le condamne et le conspue. Elle reproche à Marivaux de, je cite, « décomposer la langue ». Tout ça sont des métaphores qui trahissent bien sûr une vision romantico-passionnelle de l'amour que décortique et déconstruit par exemple Bell Hooks. Hein. Quand ça se termine, du coup, ça fait très très mal. Le soleil disparaît ou bien il s'éclipse, comme dans ce tube de 1983 de la chanteuse galloise Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, éclipse totale du cœur, j'avais 5 ans et déjà hâte d'avoir des terribles chagrins d'amour. Alors, once upon a time, il était une fois, I was falling in love, je tombais amoureuse. Now, I'm only falling apart. À présent, je tombe seulement en morceaux. There's nothing I can do, je ne peux rien y faire. Éclipse totale du cœur. Il était une fois, cette formule qui ouvre les contes de fées, mais il n'y a pas de prince charmant. Puis la chute, avec d'abord l'expression banale, je tombais amoureuse. Puis Bonnie Tyler la reprend juste après, je tombe en morceaux. Elle la remotive, on entend de nouveau la chute, on perçoit la douleur physique. Et puis l'éclipse. Désolé Ali, c'est pas gay. Désolé Grégory. En fait, les métaphores de la fin de l'histoire...
Ne mettez pas là-dedans.
Sont souvent...
Et sortez-moi de là, quoi.
Les métaphores de la fin de l'histoire sont souvent apocalyptiques, noyades, terre brûlée, champs qui brûlent, Jacques Brel et Niagara. Enfin ça, c'est quand on aime et qu'on se fait quitter, parce que le partenaire qui a besoin de quitter fait plutôt des métaphores du genre problème respiratoire. Hein. J'ai besoin d'air, de respirer, j'étouffe, l'espace vital manque, il y a un sentiment d'urgence, bref, ça sent la rupture. Et voilà encore une petite métaphore, et si on écoute bien dans rupture, on entend la violence du lien qui se défait, qui casse, qui rompt le vide que ça laisse. Et ben voilà, bon bah chères auditrices, chers auditeurs, chers Grégory, j'espère que je ne vous ai pas trop brisé le cœur et je ne commande pas cette métaphore. Bonne Saint-Valentin à tout le monde quand même.
Un commentaire Grégory Cohen. Non, no comment. La chronique avec la langue de Julie Neveu a podcasté sur l'appli Radio France et on peut lire avec beaucoup de profit en poche chez Point votre livre Julie Neveu, Le langage de l'amour. C'est absolument passionnant et c'est à lire c'est en vrai. Ce jour particulier.
Merci.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Week-end. Merci aux amis du vendredi, Julie, Guimette, Thibaut, Grégory et Théodore. Ma langue a fourché. Merci David Habitant de Théma.archi. Merci David Habitant de Théma.archi. Merci Sandrine Mercier de la revue AR. Et merci Adeline Baldacchino. Je recommande vraiment Fragments de mémoire, Voyage à Auschwitz-Birkenau. C'est publié chez Flammarion et avec de belles photos. C'était coécrit avec Aïm Corsia. Tout au long de la semaine, l'émission a été préparée par Nathalie Romero, Lysiane Larbani et Cyrine Benyounès avec l'aide d'Antoine Poitras, à la réalisation Claire Destacan, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, faut-il arrêter le gluten ou le lactose si on n'est pas intolérant ? Ce sera l'occasion de revenir sur la maladie cœliaque, l'hypersensibilité au gluten et sur donc l'intolérance au lactose. Bon week-end à l'écoute de France Inter.